Deuxième partie de Into the Live, on est de retour. Alors, c'est la première fois qu'on fait une émission en deux parties. Donc, entre les deux parties, il y a une mi-temps. Donc, nous avons fait la première mi-temps de l'histoire de Into the Wild, Into the Live. Et du coup, bon, c'est pas trop ce que ça va donner, mais on est ravis que vous soyez toujours au poste. On a toujours avec nous nos collaborateurs, nos collègues et néanmoins amis. Alors, docteur Shlomo.
Shlomo Love.
Et voilà, il est là, il est toujours content.
Il est content. Il est ravi. Avec toute cette belle équipe qu'on a autour de la table. Non, mais regarde, tous ces sourires, ces gens ravis, toute cette, cette dynamique gessienne qui est là, cette émulsion, je trouve ça magnifique.
Alors, le futur existe, on en fait partie, vous aussi. Et Lacette, tu es encore resté avec nous aussi. Tu es content d'être là parmi. Voilà, les héros du quotidien de ce pays de Gex sous la pluie. Alors toi qui es suédois, qu'est-ce que ça t'inspire, ce climat de merde, hein?
Ça me rappelle mon pays, ouais. La Suède.
Ouais, c'est ça. Hein.
Bah, techniquement un peu. Oui, toujours là. Et puis, je tenais à dire, je suis vraiment heureux d'être avec vous.
Alors dans cette partie 1, bon, on a effleuré quelques sujets sans aller vraiment en profondeur. Je sentis ta frustration parce que voilà, je pense qu'il y a un truc que tu voulais développer particulièrement parce que c'est un point qui te tenait à cœur. Qu'est-ce que tu as retenu de cette partie 1 que tu voudrais voilà, qu'on développe tous ensemble?
L'instant présent.
Ouais, ok, on est à fond d'accord. Et alors on a fait une émission secrète pour Noël, elle était tellement secrète qu'on n'a pas pu la diffuser parce qu'on ne l'a pas enregistrée, elle était aussi au Café Voltaire, on a eu la chance d'avoir Roger. Alors Roger, on ne le connaît pas forcément mais...
Il va se présenter.
Il va se présenter et Roger est là avec nous, c'est l'âme, une des âmes du Café Voltaire qui nous héberge ce soir. Merci. Alors, on n'a pas beaucoup de sponsors parce que, voilà, nous, on a des financements occultes. Mais on ne peut pas dire le nom des financements occultes. Mais le Café Voltaire est là, il nous aide et il nous soutient. Et Roger, tu es avec nous ce soir. Et on est content et tu vas pouvoir nous parler un peu de ce Café Voltaire.
Moi de même. D'entrée de jeu, déjà, je dois dire, je suis arrivé, j'ai pris l'émission en cours. Et d'entrée de jeu, on parlait de quoi? De l'érotisme. Alors j'ai pensé que l'année 2018, qui suit l'année 1969, resterait érotique.
Maman, bouge-toi les oreilles.
Alors, étant cuisinier de formation, j'étais sur le point de vous parler du pouvoir érotique du brocoli.
Oui, parce que ouais. C'est un truc qu'on ne connaît pas assez.
Ouais, exactement. Et déjà, vous... Vous parliez de l'année érotique en faisant référence au film 50 nuances de Grey.
Non, on faisait référence à Theresa May.
Oui, par la suite. Par la suite. Mais initialement, vous parliez
par association d'idées.
50 nuances de Grey. Il me semble que c'est un film américain. Mais pour moi, le pape de l'érotisme américain, c'est Russ Meyer.
Ah, voilà. Pussycat, ouais, bravo.
Et Russ Meyer, justement. Russ Meyer, comment dirais-je, il faisait l'apologie de l'érotisme rural, l'érotisme champêtre. Donc c'est Russ Meyer qui, le premier, avait développé, entre autres, le pouvoir érotique du brocoli. Voilà. Donc dans un légume, somme toute anodin, il y avait un pouvoir érotique caché.
Je ne sais pas si j'ai envie de visualiser.
Et on est là pour expérimenter hein, ce soir, docteur.
Y a-t-il des brocolis dans le frigo? Roger.
Laissez parler votre imagination, c'est encore mieux. l'idée est plus intéressante que sa matérialité.
Bien entendu. Alors donc, voilà, venez au Café Voltaire. Alors peut-être que, alors je ne sais pas quels sont les noms des plats qu'il y a sur le menu. Est-ce que ce sont des noms qui suggèrent l'érotisme caché du brocoli? Je ne crois pas. Hein. Dans le Café Voltaire? Non.
Pourquoi pas?
Et en tout cas, sachez qu'ils sont cuisinés avec cette intention-là.
Entre autres.
Entre autres. Et que donc tu es le garant, toi, Roger, de cette tradition française que tu mets à jour.
Oui. Hein, la tradition grivoise, la tradition Max Pécaenne.
c'est du latin.
Non, non, Max Pécasse, auteur de films érotiques.
Max Pécasse, oui, les films des années 80, 85.
Exactement.
Oui.
Exactement.
Ah ouais. Oui, tout à fait. Elles ont, les filles, elles ont des robes. Oui, tout à fait.
Il
ouais.
n'y avait pas que Dorcel, hein, en fait. On apprend ça.
Non, Max Pécasse, en fait, on trouvait ses films sur M6 ouais. le dimanche.
Alors de la messe.
Pardon, désolé. Désolé.
Alors voilà, c'est l'effet de la mi-temps. Quand on a une mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est pas pareil que la première. Et du coup, on aborde des sujets un peu plus dans leur subtilité. Hein, Roger, merci.
Je vous en prie.
Et du coup, on retient cet érotisme qui nous travaille tous. Est-ce que notre poète de ce soir a envie de t'illustrer
musicalement
musicalement
cette deuxième mi-temps qui démarre.
Cette deuxième mi-temps.
Ouais.
Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là.
Merci. Voilà. Et on rappelle que vous pouvez écouter le musicien anonyme à la Marie du Jura, alors c'est pas à côté, mais du coup, voilà, tous les soirs, non, quoi, 21h30 à la Marie du Jura, tu te recueilles et tu chantes pour voilà, les esprits de la nature. Non, c'est un peu là qu'on t'a trouvé.
Toujours merci d'ailleurs de m'avoir descendu, de m'avoir recivilisé.
Voilà. Ouais, mais tout à fait, j'en avais un petit peu marre de chanter. De chanter pour les astres et moi-même, et pour les chamois. Donc ça me fait, je suis ravi de partager ça avec vous. C'est très agréable à partager, finalement, ce petit moment présent, convivial, et partagé.
Voilà. Oui, parce que la Marie du Jura, alors, bon, on en a parlé dans une autre émission, on ne la connaît pas très bien. Alors, ça se passe comment, les nuits, avec la Marie du Jura?
Et comment elle va?
Comment elle va, ouais. Elle t'a appris des trucs?
Bon, en ce moment, c'est un peu difficile. C'est un peu humide, je dois dire.
C'est un peu
donc,
difficile
ouais,
entre vous,
c'est... Bah, oui, évidemment, parce que le climat joue beaucoup hein, sur la relation qu'on peut entretenir.
D'accord.
Donc en ce moment, c'est un petit peu difficile, donc elle est partie au sec, je dois le dire. Elle a pris c'est une décision difficile, mais qu'elle a dû prendre. Et puis du coup, moi je reste en attendant que le printemps revienne, voilà.
Mais cher chanteur anonyme, en fait, j'avais une question. Le bonheur, il n'est pas dans le brocoli? J'ai rien compris.
Mais aussi, compris. Et ben aussi dans le pré aussi.
Enfin, non
dans le brocoli, dans le pré, donc le bonheur, en fait, il est partout.
D'accord.
Suffit de bien regarder. Hein.
Non, c'est les filtres directeurs. Non. Oui, bon, bah, désolé.
Non, non, mais.
D'accord.
Voilà.
Roger.
Alors, oui, alors le fil directeur de cette émission.
Est-ce que le bonheur, finalement, il n'est pas dans le regard de celui qui regarde? Est-ce qu'il n'est pas dans les yeux de celui qui regarde, le bonheur, hein, à la fin de la journée?
Qu'est-ce que c'est beau?
Tu veux dire que s'il n'y a personne qui t'a regardé.
Non. C'est pas dans le regard des autres, c'est dans ton regard. C'est toi qui as le bonheur en toi. Quelque situation que tu vives, si tu veux le bonheur, tu l'as en toi.
Bah pourquoi pas? Il y a personne qui va être contre, non si.
Bah écoute, je pense que la Marie du Jura serait d'accord. Les brocolis, ils sont pas contre. Je pense qu'on peut partir sur bon, cet état de fait pour continuer.
On rappelle que pour tous ceux qui connaissent pas très bien l'endroit d'où on émet cette émission, la Marie du Jura est un lieu mythique, voilà, qui est un endroit perdu dans les hauteurs du Jura, aujourd'hui enseveli sous la neige, le vent, les tornades, qui subit les impacts du changement climatique, ce changement climatique qui nous entoure, qui vient nous, on sait pas trop ce qu'il veut dire, mais on sent qu'il est là, il est pas loin, hein. Hein, non, on sait pas. Hein. À moins que, moi je me rappelle quand j'étais enfant, je me disais les vieux, ils disent tous que le climat c'est pas le même que, voilà, ça a changé, que c'est un truc de vieux de dire ça, et qu'avant c'était pas pareil. Mais c'est quand même un petit peu vrai. Et alors bon. Moi, je me disais, parce que donc il y a Davos, notamment, changement climatique, Trump qui dit plein de trucs, mais c'est que des conneries et tout ça. Et puis, il y a plein de gens qui veulent sauver le monde. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent faire partie de la solution. Et en fait, il y a très peu de gens qui se posent la question du problème, je trouve. Et à savoir que le problème du changement climatique, c'est la société dans laquelle on vit, qui est quand même basée sur la consommation de masse, l'exploitation des ressources de la planète, pour générer du profit, non?
Bah, écoute, hein, moi je trouve qu'on n'y va pas assez vite hein, dans ce profit-là. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop d'espèces de poissons, il y a encore beaucoup trop d'arbres. Je pense qu'il faudrait qu'on accélère un petit peu la... qu'on accélère un petit peu cette société de consommation. Là, on se tourne les pouces, on se dit, ouais, il faudrait ralentir, il faut qu'on trie nos déchets. Mais rien à foutre, regarde, on achète tous des trucs qui viennent de Chine, et puis on se dit, ouais, il faut qu'on trie nos déchets. Ben voilà, non, il faut qu'on continue, il faut qu'on accélère. On garde le diesel, on enlève les éoliennes, et on continue, on met un petit coup d'accélérateur.
Voilà, et donc Notre-Dame-des-Landes, les zadistes. Alors, on a la chance ce soir aussi d'avoir quelqu'un qui a été témoin dans les années 2000 de la ZAD de Ferney-Voltaire, donc le bois de la bagasse à Ferney, et qui a pu se perdre un petit peu dans, à cette époque-là, les luttes de terrain, les rebelles. Alors, où est passée cette guerre ? On va taire son nom, parce que c'est un héros anonyme, mais... Henri, et que, où est passée cette guérilla de Ferney, donc toi-même qui es un fernaisien depuis très longtemps, qui connaît tous les recoins de tous les bois, qui a vécu avec ton chien des nuits entières dehors, humer chaque arbre, et puis maintenant tu t'en vas parce que tu trouves que Ferney c'est devenu un truc que qui tu préfères aller ailleurs. Et est-ce que tu penses que du coup, c'est fini, le bois de la bagasse, les zadistes de Ferney, ils auraient dû rester, ils ne sont pas restés. Est-ce que la lutte continue ou est-ce qu'il faut partir avec toi ?
C'est allumé le micro ? Ouais. Nickel. les zadistes de Ferney, maintenant, ils sont à Notre-Dame-les-Landes, hein, parce que ça a commencé d'abord à Ferney quand même.
Ouais, non, mais il faut le dire. Hein.
Et donc, ils ont beaucoup mangé de brocolis. Et ça leur a amené quand même à penser que Ferney, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Ça a été un exemple. Tout le monde se souvient. Le bois, ils l'ont un petit peu ratiboisé quand même. Ils n'ont enlevé qu'un hectare. Ils voulaient en enlever plus. Et puis maintenant, on est content qu'ils soient là. Et puis la lutte continue, peut-être ailleurs qu'à Notre-Dame-des-Landes, parce que ça a l'air plus ou moins réglé, cette histoire. Mais faut les encourager, il y a des milliers de zones à défendre en France et c'est bien que les gens se mobilisent.
Donc quand on est un zadiste, en fait, on bouge.
Alors, juste question de définition, là, parce qu'on parle dans un milieu d'experts. Il faut savoir que le reste de la planète et peut-être d'autres civilisations ne sont pas aussi expertes que ce tour de table. Qu'est-ce qu'un zadiste ? Qu'est-ce qu'une ZAD ? D'où ça vient ?
ZAD, c'est juste les initiales de zones à défendre. Donc des zones à défendre, je pense qu'il y en a autant qu'on veut, pour autant qu'on définisse qu'est-ce qu'on veut défendre et puis de quelle manière on veut vivre et quelles sont à la fois les valeurs ou l'espace qu'on veut défendre.
D'accord, très bien. Donc sa voiture dans les embouteillages, c'est une ZAD finalement. On est tous un petit peu zadistes. C'est notre zone à défendre, finalement, notre
espace. Comme on est à tous un lanceur d'alerte en nous. Non ?
Très certainement, oui.
Donc on est multi...
carte.
Multi-carte.
Multi-passe.
Et à l'époque, hein, parce que là, on fait les malins avec une radio internet que vous écoutez dans votre Tesla. Bon, OK. On n'est pas hyper les mains dans la merde. Hein, on n'a pas de cambouis, tout ça. On a un peu des bobos de campagne. Mais il faut savoir que la radio libre a commencé à l'époque. Et que nous avons un représentant des premières radios libres de France qui peut aujourd'hui témoigner de, alors d'une part de ce que ça voulait dire à l'époque. Est-ce que c'est toujours pareil aujourd'hui ? Est-ce qu'on sent que la radio Internet, telle qu'on l'explore aujourd'hui, et porte le même espoir de terrain de liberté ou est-ce que c'est pas du tout la même chose dans toi qui a participé ? Alors comment s'appelait la première radio pirate que tu as montée à l'époque dans le Sud ?
À la première à laquelle j'ai participé, ça devait être dans les années 77-78. Hein, excusez-moi, j'ai les cheveux blancs. C'était une réaction contre la radio pirate qui avait été montée par un certain président de la République et qui s'en servait pour faire sa propagande. Il a été élu d'ailleurs. Ça semblait efficace. Hein. Alors on s'est dit, écoute, nous on est techniciens, on fait un truc et nous on le fait à notre manière, on joue. Alors on a rassemblé du matériel, on a fabriqué des trucs, on a installé nos antennes, qu'on a taillées nous-mêmes d'ailleurs. À l'époque, on ne trouvait pas trop de matériel qui était tout fait. Hein. Ça se fabriquait assez facilement. Et on a monté Radio Coup de Soleil. Voilà, Radio Coup de Soleil, c'était à Marseille. Et à cette époque-là, on était fiers comme Artaban parce que les mecs de Montpellier nous entendaient. Et on avait quoi ? On avait grosso modo 30 watts. 30 watts HF, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une consommation électrique de l'ordre de 50 watts. Une ampoule électrique, grosso modo. Bon, évidemment, avec tout le matos qu'on mettait en œuvre, ça consommait bien plus. Mais ça, on s'en foutait complètement. Hein. Ce qu'on voulait, c'était être entendu. Ce qu'on voulait, c'était tripoter, bidouiller la technique. Et on voulait jouer, en fait. On s'amusait comme des fous. On avait des potes qui étaient spécialisés en jazz et musique du monde. On avait des potes qui faisaient du théâtre. On avait des potes qui faisaient un tas de trucs, quoi. Et qui venaient. Alors, un tel, le jeudi soir, c'était Patrick. Alors, c'était du jazz. C'était un fou furieux du jazz. C'était un puits de science. Et les gens, ils écoutaient de partout. Ils trouvaient toujours des machins absolument incroyables que personne n'avait jamais trouvé. Et on se demandait comment ils faisaient. Et un jour, on a eu un peu le vent de l'affaire. Mais alors, on l'a bien gardé pour nous. Des fois qu'il y en a un autre qui veuille le faire. C'était très, très drôle. Voilà. Et ça a duré, ça a duré 3-4 ans. On s'est fait, à plusieurs reprises, la gendarmerie est venue en disant « Ouais, vous émettez de façon illégale, machin, etc. » Non, 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 pas du tout, monsieur. On avait quand même un gros avantage sur tous les autres, c'est qu'en fait, on était déjà radioamateur officiel, on avait les indicatifs, et donc les antennes en question, c'était des antennes de test. C'était des trucs qu'on fabriquait pour nous. C'était, on jouait, quoi, on continuait à jouer, mais plus sur la même bande. C'était pas autorisé sur cette bande-là, on s'en foutait complètement. Voilà, ça a commencé comme ça. En fait, c'était une attitude réactive par rapport à l'usage illégal d'une bande de fréquence qui était soi-disant protégée, mais qui servait à pas à grand monde. Et puis après, y a les commerciaux qui se sont mis là-dessus. Le gouvernement nous a envoyé une nana qui est maintenant, je sais plus, elle est à la retraite d'ailleurs, qui était... On pourrait dire que c'était celle qui devait mettre le bordel final. En fait, elle voulait qu'on se rassemble les uns avec les autres pour faire des trucs qui coûtent moins cher et pour pouvoir maîtriser la situation, en fait. Mais nous, on ne voulait pas être maîtrisés. Nous, on voulait jouer. C'est tout ce qui nous intéressait. Et donc, à partir du moment de la réunion vraiment importante qui avait été initiée par je ne sais plus quel ministère, parce que ce n'était pas bien important pour nous à cette époque-là, à partir de ce moment-là, on a dit bon, on va monter la puissance, on va faire un petit peu plus de choses. Et puis, quand vraiment ils vont nous taper sur la tête, on arrêtera tout et puis on partira faire autre chose. Voilà.
Et l'idée de la radio, alors c'était quoi ? C'était du divertissement ou c'était du message ? C'était juste un petit peu montrer sa présence ? C'était quoi ?
C'était un peu tout. Il y avait l'attitude réactive, ça c'était un message déjà. Ça en était un beau, d'ailleurs.
Occuper l'espace.
Oui, on est là, on est vivant. Nous, on compte, on veut qu'on nous entende, on veut être attendu, on a des choses à vous dire. Ça, c'était évident. Et puis, il y avait aussi le fait qu'on se marrait comme des fous, parce qu'en fait, on trouvait des sujets absolument incroyables. Par exemple, je ne sais plus exactement... un exemple. Les pompiers, ils récupéraient du matériel qui était déclassé. Il les faisait régénérer, il faisait faire des réparations, il remettait un coup de peinture sur le matos. Puis il y avait une organisation, une ONG, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, qui bossait avec les hôpitaux, qui avait décidé de leur filer un coup de main. Alors ils avaient, affrété un bateau, et puis le matos, il partait au Pérou. Voilà. Alors voilà, ça c'était un sujet intéressant. Alors on parlait de ça. On dit, un tel, il a réussi à récupérer... 420 lits dans les 3 ou 4 départements limitrophes. Et puis les 420 lits, il faut les envoyer quelque part. On ne va pas les garder sur le ventre. On va s'en servir. On va servir du bateau. On va caler les matos un peu gros avec des matos un peu moins gros. Et puis on va tout envoyer ensemble. Voilà, par exemple. Alors le coup des pompiers, c'était pour le Pérou. Puis une autre fois, c'était pour le Togo. Puis une autre fois, c'était pour autre chose encore. Hein. Et à chaque fois, c'était un sujet qui liait... Tout ce que les gens ont envie de faire pour les autres, ils ne savent pas comment le faire. Alors en fait, ce qui était marrant, c'était que nous, on était techniciens. Alors il y avait ceux qui bossaient avec FR3, il y avait ceux qui bossaient à l'époque avec la Poste et les PTT, qui n'existent plus d'ailleurs. Et puis il y avait ceux qui bossaient avec les hôpitaux, puis il y avait ceux qui bossaient avec je ne sais quoi d'autre. Mais de toute façon, il y avait toujours un truc à récupérer, un truc à modifier, un truc à bidouiller. Voilà. Alors on bidouillait, on s'amusait et tout le monde était content. Et l'intérêt, c'était que ce n'était pas pour nous, c'était surtout pour les autres. Voilà. Là, j'ai tout dit, j'ai beaucoup trop parlé.
Okay. En tout cas, on retient lier des gens autour de projets communs. Ça, c'est super intéressant et c'est ce qui nous anime aussi ce soir.
On magnifie l'érotisme, on magnifie l'hostilité aux décisions gouvernementales par la ZAD, la création de Radio Pirate. Finalement, c'est un rassemblement de dissidents ici.
I think you're crazy. I think you're crazy. I think we're crazy. Probably.
À mon avis, là, Marie va revenir. Merci. Hein.
Le message est clair.
Ouais, Marie, reviens. Ton homme est là, il t'attend, il chante pour toi. Et on est là aussi. Donc, est-ce qu'on est des dissidents? Pouf, on aimerait bien. Ça, c'est un super truc. Moi, si je pouvais dire que j'étais un dissident, je serais grave content. Je raconterais à mes enfants, et papa est dissident, quoi.
Moi, j'étais tellement content d'avoir ma carte de séjour. Non, c'est une blague, je suis français, ça va, c'est bon. Non, mais c'était histoire de... Enfin, tu as dit qu'il fallait rebondir...
Ouais, rebondis, vas-y.
Oui, bah voilà, bah, c'est, bah, désolé.
Non, mais carte de... Ouais, alors du coup, dissident, carte de séjour, radio pirate, liberté de ton, est-ce que... Alors moi, je te posais une question. Tu t'es pas trop présenté, est-ce qu'on te présente ou pas? Non, t'as pas envie de... Non, bon, ok.
Christine, en fait. C'est Christine qui doit se
ouais. Du coup, est-ce que cette liberté de ton, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de rare en fait dans l'histoire d'une société, d'une part qu'elle puisse exister, c'est-à-dire qu'on puisse avoir l'espace, et d'autre part qu'on puisse avoir des médias pour la diffuser. C'est-à-dire que aussi bien dans Internet, finalement la radio libre, ça a duré 10 ans cette période déjà, c'est enfin peut-être un peu moins, ou le rock and roll où on pouvait avec 3 guitares faire péter la planète avec des chansons débiles, ça n'a pas duré très longtemps non plus. Internet, il y a une période un peu freedom comme ça, mais c'est vite, c'est le système, il est fort quand même pour récupérer ces trucs quoi. Est-ce que tu as l'impression que, alors moi j'espère que la radio telle qu'on l'a fait aujourd'hui continue à être un espace où justement on peut exprimer tout ça sans être pris par des pensées compulsives du futur et du passé, donc on peut être là maintenant. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose dont il faut, avec ton grand âge et tes cheveux gris, est-ce que toi qui es le sage de l'Assemblée, est-ce que tu as un conseil à nous donner pour garder ça en vie?
Il faut continuer à être ce qu'on est, il faut surtout pas changer. Moi, fidèle à ce que je pense, fidèle à ce que je crois, et mon cœur il a pas changé. Je dis couramment aux gens qui me posent la question, mais quel âge as-tu? C'est vrai, tu as les cheveux blancs, tu as les sourcils blancs, le reste aussi. Enfin bref. Mais c'est... toujours est-il que quand on me pose la question, je réponds de manière un petit peu détournée en disant que tu dises 18, 38 ou 148, tu dis toujours que tu as 8 ans. Ben j'ai 8 ans, puis voilà.
Donc fidèle à ce que je suis.
Eh ben, ça répond bien à la question.
Écoute, moi j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu aux zadistes. Ah ouais, parce que ouais. Ça, on a survolé un petit peu la question, on a la définition maintenant, donc on peut aller un petit peu, peut-être un peu plus loin dans la démarche. Et moi j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une réaction par rapport à une information, c'est-à-dire l'information. on va raser une partie d'un bois, on n'est pas d'accord avec ça. On est plein à pas être d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour, on rentre en action, on rentre justement en réaction par rapport à ça, et on se dit peut-être qu'on va pouvoir faire changer les choses ou pas, mais en tout cas, on va agir. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé dans cette situation ? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu te souviens, ou qu'est-ce qui t'a motivé ?
Alors, c'est vrai que François m'a habilement branché sur le sujet, mais je n'ai jamais été zadiste, donc je vais avoir beaucoup de mal à répondre à cette question. Moi, je pense que c'est des gens qui ont le temps, quoi. Parce que dès qu'on a une famille, un boulot, des trucs, ça devient super compliqué d'aller camper dans les bois, quoi. Mais donc, c'est un petit peu un truc de... Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je pense que c'est quand même des minorités qui viennent malgré tout exprimer ce que les autres ne font pas, justement. Mais pour répondre à ta question, je pense que les gens qui le font, ben, avant tout, c'est parce qu'ils ont l'implication, l'envie de le faire, c'est sûr, mais que leur vie, en dehors de ça, leur permet aussi de le faire. Et je pense que beaucoup plus de gens pourraient le faire, auraient plus envie de le faire s'ils étaient plus disponibles. Mais on revient à des problèmes de société, d'aliénation du travail et de choses comme ça. Hein, ça...
Est-ce que je peux te poser une question ? Parce que justement, j'étais avec un collègue commercial, dont je vais taire le nom, qui me disait en fait, les zadistes, en gros, c'est des gens qui servent à rien, qui cultivent de la beuh dans les champs, qui veulent pas travailler. Les poncifs du genre. Et c'est vrai que je l'écoute parce que j'ai pas le choix, hein, c'est lui qui conduit. Donc je dois l'écouter. Et techniquement, je me suis dit, en fonction des reportages, on entend des gens qui ont eu des enfants sur la ZAD, notre Dame-des-Landes, qui ont construit des maisons. Et justement, alors, tu n'es pas un zadiste, mais tu connais peut-être un peu plus le mouvement. Moi qui suis, qui ne connais rien à ça, en fait, vraiment un citoyen lambda. La question c'était qu'est-ce qui les motive, mais ces gens-là sont pas des, je pense pas, c'est pas des gens fous, c'est pas des gens qui ont abandonné leur travail, qui ont abandonné leur famille pour occuper la ZAD. Donc moi en fait ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre en fait pour pas aller bosser, occuper l'espace, construire une famille, des maisons, faire un potager, enfin tout ça quoi. C'est quelque chose qui m'interpelle dans la mesure où quand je sais pas je fais comme si j'avais 4 ans, je pose la question.
Mais je pense qu'avant tout pour eux c'était une expérience, ils se sont lancés là-dedans, alors il se trouve qu'ils ont construit, enfin voilà, après ils avaient besoin de vivre, alors ils se sont installés sur place. Et je pense que ce serait une bonne question d'aller leur poser à eux la question. Enfin, une bonne chose d'aller leur poser à eux la question, parce que j'imagine que malgré tout, ils ont trouvé un grand plaisir à ce mode de vie et qu'ils se retrouvent un peu embêtés, en fait, que ça soit fini.
D'accord. Le dernier film d'Éric Judor parle très bien du mouvement zadiste là. Les partisans de ce mode de vie alternatif, partisans de la décroissance. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas vraiment. Mais je sais qu'Éric Judor, c'est la thématique de son dernier film. Éric Judor du duo Éric et Ramzy.
Oui. Ouais. Alors du coup, ce qui serait pas mal, c'est de passer un moment en voiture avec Éric Judor qui conduit. Hein, comme ça, on serait obligé de l'écouter. Ça serait cool.
Techniquement, ouais.
Et après, moi, j'ai l'impression que, comme on le disait tout à l'heure, on a tous une zone à défendre quelque part. Qu'on peut s'approprier dans notre vie, même si on a des rythmes avec des enfants, des boulots et tout ça. Mais on aurait tous envie d'avoir une zone à défendre et donc d'être un dissident potentiel, même si c'est entre 8h05 et 9h15, même si c'est quand tu es peinard chez toi, sous ta douche ou je sais pas où. Dans le sens où on est... alors peut-être que les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, ils ont cette opportunité d'avoir une vie entière dédiée à... je dis une opportunité parce que je pense qu'effectivement il y en a qui sont contents, ils doivent être bien emmerdés du fait qu'ils doivent retourner à une vie normale quoi. Et alors que là, ils ont eu pendant 3-4 ans une espèce de parenthèse où ils ont eu l'expérience d'une collectivité qui, en plus, était motivée par la défense d'un intérêt commun et juste, enfin, selon leurs yeux. Et mais nous, sans être dans ce romantisme-là, même si on peut franchir le pas, hein, je pense qu'il y en a qui franchissent le pas, et c'est peut-être la question que tu te poses, là, c'est pourquoi ils ont ce courage-là ? Est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est une évidence ? Bon, ouais, ose ta vie, car toi seul peux la jouer, disait mon arrière-grand-mère. Moi, j'étais obligé de l'écouter aussi, hein, elle ne conduisait pas vite. Et du coup, non, dans le sens où, comment est-ce que, sans se dire, bah, tiens, on ne peut pas aller à la ZAD parce qu'on n'a pas le temps, comment est-ce qu'on quand même on cultive cette partie, enfin l'entretien où on fait vivre cette liberté de ton qui fait qu'on est, on n'est pas dans l'algorithme et qu'on arrive à échapper et à créer un monde humain.
Mais justement, moi, c'est ça qui me gêne parce que aujourd'hui, j'entends le combat va se poursuivre. On veut rester alors que le combat est gagné. Alors, enfin, je sais pas, on a mené un combat, on l'a terminé, on est sorti vainqueur. Maintenant, chacun retourne dans ses pénates, comme un tout bon soldat. Et là, j'entends, oui, on veut rester, on va aller dans d'autres endroits, dans d'autres zones à défendre. Comme tu disais, oui, on a tous quelque chose à défendre. Hein. Sa maison, son crédit, à s'assurer que les enfants, ils peuvent toujours aller au centre aéré et payer la cantine. Ouais, et en fait, j'aimerais vraiment comprendre leur motivation, parce qu'en fait, à part le fait qu'ils s'appellent tous Camille, oui, parce qu'ils s'appellent tous Camille, hein, les zadistes. J'aimerais saisir ce sens-là, parce que si c'est vraiment ce qu'ils ont fait, c'est juste magnifique et beau. Et ouais, j'aimerais avoir les cojones de le faire, quoi. Ça fait rêver, mais sauf que là, on retombe un peu. Non, on reste. Je ne saisis plus le sens, en fait. On a gagné. Maintenant, chacun retourne chez lui, enfin... Vous me suivez, ouais. Monsieur ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Ben, bien sûr, je vous donne le micro. Hein.
Moi, j'ai le sentiment, en fait, que ces gens-là, ils ont voulu vivre avec la tête en dehors de la petite boîte sociale qu'on a construite pour eux. Et leur but, c'est pas tant de continuer la lutte, c'est de continuer à vivre avec la tête en dehors de la petite boîte sans qu'on leur tape dessus. Ils ont décidé qu'ils feraient ce qu'ils veulent, ce qui leur convient, et ils ont le courage de l'assumer. Et c'est peut-être ça le but, en fait, quand ils disent « on continue ». On continue quoi ? On continue pas à casser pour le plaisir de casser, on continue pas à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, on continue à vivre selon ses propres préceptes, en tenant pas compte des décisions des autres qui vous les imposent par la manière dont la société est construite. Et cette fameuse petite boîte sociale, en fait, eux, ils ont décidé de sortir la tête et de vivre comme ils ont envie de vivre, tout simplement.
Alors, on est lâche ou ils sont courageux ?
Ouais, c'est peut-être un peu de dialectique, ça, je sais pas.
Non, je sais pas. Non,
je sais pas si c'est du courage. En attendant, ils sont fidèles à leurs idées, c'est déjà beau.
Moi, je pense qu'il faut un peu de courage quand même. C'était juste.
Roger.
Il m'a semblé avoir entendu que les premiers zadistes étaient originaires de Ferney, c'est bien ça ? C'est bien ça ?
Ouais, c'est bien ça.
Alors, mais tout s'explique. Tout s'explique.
C'est Voltaire.
Voilà. Tout s'explique. Pourquoi ? Parce que les zadistes, il me semble qu'ils vivent essentiellement de l'agriculture. La conclusion de Candide de Voltaire, il faut cultiver son jardin. En conclusion donc, le zadisme, c'est voltairien.
Et toc ! Into the wild !
Belle conclusion. Merci Roger.
Tout zadig.
Parce que ça m'inspire. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lutte fidèle, un chant de cigale, je me sens de cigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, hey, elle est jolie. Je suis pas d'ici, je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. Oh, oh, oh.
Yes, thank you, Mr. Tintamore. Cette émission va se terminer à moins qu'il y ait un lanceur d'alerte qui veuille absolument dire, lancer un message in the bottle radiophonique pour... non, c'est bon, rendez-vous pris sur les ondes Into the Wild pour que le futur continue d'exister dans le moment présent avec son passé. Et on se retrouve...
Son avenir.
Son avenir, voilà. Donc vous qui vous nous écoutez dans votre Tesla, eh bien écoutez, continuez, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire dans une Tesla, hein. Parce que Tesla, c'est des Tesla connectés. C'est elles qui peuvent capter des radios internet, voilà. Et donc on se retrouve sur tous les podcasts de la planète grâce à nos serveurs localisés dans le monde entier. Merci encore à Edward Snowden qui nous soutient depuis le début. par contre, c'est le seul. Hein.
C'est
je crois qu'il n'y a pas d'autres.
Écoute, ouais, en tout cas, on est très écoutés en Biélorussie, puisque tout à l'heure, il y avait Irina qui venait de Biélorussie.
Voilà.
Donc, Snowden étant voisin de la Biélorussie, je pense qu'il y a un lien de cause à effet très net. Là, on est effectivement. On aimait beaucoup plus loin que les limites de Ferney-Voltaire, du bois de la bagasse et des ZAD, d'ici et d'ailleurs.
À bientôt, bonne semaine à
tous.
On vous embrasse. Ciao les gars, merci.
Bonsoir.